Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous propose un dernier extrait des textes rassemblés par Tissy McLuhan, Pieds nus sur la terre sacrée. En mai 1847, l'article intitulé « Limites territoriales non géographiques et pistes des Iroquois » fut distribué à l'occasion d'une séance de la Société d'histoire de New York. Pour répondre à une déclaration selon laquelle les Iroquois n'ont laissé aucun monument, un chef Cayuga, cultivé, était présent et fit l'intervention suivante. « Cette terre de Ganono, ou Empire State, comme vous aimez à l'appeler, était autrefois sillonnée par nos pistes d'Albany jusqu'à Buffalo. Pistes que nous avons foulées pendant des siècles. Pistes si profondément gravées par les pieds des Iroquois qu'elles deviennent vos routes lorsque vos possessions absorbèrent peu à peu celles de mon peuple. Vos routes traversent encore ces mêmes lignes de communication reliant une extrémité à l'autre de Long House. La terre de Ganono, l'Empire State, voilà notre monument. Nous n'occuperons plus longtemps beaucoup d'espace en vivant. Le seul arbre parmi des milliers qui abritaient nos ancêtres, un vieil orme sous lequel les dignitaires des tribus avaient l'habitude de se rencontrer, nous abritera tous. Mais nos corps seront enlacés dans la mort, parmi ses racines, sur le sol même où il a poussé. Peut-être qu'il ne vivra pas longtemps quand il ne sera plus fertilisé par leurs cendres. Au cours de la dernière guerre contre les Anglais, nos frères rouges, nos frères aînés, sont encore venus vous aider comme autrefois sur la frontière du Canada. N'avons-nous plus aucune part dans votre histoire, nous, les premiers habitants de ces terres florissantes? Vos pères étaient contents de s'asseoir sur le seuil de la grande maison et ils se trouvaient riches, en recueillant les simples balayures à leurs portes. Nos ancêtres vous ont-ils repoussé avec mépris quand les Français tonnaient avec leurs canons pour se frayer un passage et vous repousser à la mer? Quel qu'ait été le destin des autres Indiens, les Iroquois pourraient avoir été une nation, et moi, au lieu de solliciter le privilège de vivre à l'intérieur de vos frontières, je pourrais avoir un pays. » Enfant, le chef Luther Standing Bear est allé à l'école de l'homme blanc à Carlisle. Je me souviens qu'avec les autres enfants, en route pour l'école de Carlisle, nous pensions marcher vers la mort qui nous viendrait des mains de l'homme blanc. Les garçons les plus âgés entonnèrent des chants de bravoure afin de mourir conformément au code des Lakota, sans peur. Le chant de bravoure fortifie quiconque doit affronter une dure épreuve et chasse les esprits tremblants. Ici, dans un passage extrait de son autobiographie, il parle de cette expérience et de certaines des coutumes les plus ordinaires de l'homme blanc qui parurent des plus choquantes et malsaines à l'Indien. L'habillement de l'homme blanc adopté par les Lakota devait changer pour beaucoup le bien-être physique de la tribu. Et à l'école de Carlisle, où le changement du costume tribal pour celui de l'homme blanc fut brutal, les effets sur la santé et le confort des enfants furent considérables. Notre premier grief fut d'avoir les cheveux coupés. Les hommes Lakota ont toujours porté les cheveux longs, et les anciens de la tribu portent encore les cheveux de cette manière. Tout d'abord, en entendant la règle, certains des garçons les plus âgés parlèrent de résister. Ensuite, réalisant l'inutilité de leur geste, ils s'y résignèrent. Mais pendant plusieurs jours, après avoir été tondus, nous nous sommes sentis bizarres et mal à l'aise. Si l'argument avancé était vrai, à savoir que les enfants avaient besoin d'être dépouillés, pourquoi les filles n'avaient-elles pas subi le même traitement que les garçons? La vérité, c'est qu'ils voulaient nous transformer. Or, les cheveux courts étaient la marque distinctive de l'homme blanc. On nous l'imposa, alors que lui-même conservait sa propre coutume de se laisser pousser les poils du visage. Notre deuxième grief, concernant le pantalon, était fondé sur ce que nous tenions pour les meilleures raisons hygiéniques. Nos corps étaient habitués à des bains permanents de soleil, d'air, de pluie, et la fonction des pores de notre peau, qui était en réalité un appareil respiratoire hautement développé, fut arrêtée d'un coup par les pantalons de lourds tissus absorbant la sueur. On nous infligea de plus l'affreux tourment, les sous-vêtements en flanelle rouge. Les cols durs, les plastrons et chapeaux melons ne méritaient aucune louange et furent, avec les lourdes bottes de cuir grinçant, des instruments de torture que nous endurions parce que lorsque nous les portions, nous pensions être chic. On s'est souvent moqué de notre manière primitive de nous vêtir, mais que peut-on comparer à la folie totale des corsets de baleines d'acier et à l'énorme tournure des robes que nos filles adoptèrent après quelques années à l'école? Certaines petites manières et pratiques sont parfois liées à des idées plus grandes et plus profondes, et c'est pour des raisons de cet ordre que les Lakota n'aimaient pas les mouchoirs de poche et trouvèrent dégoûtante l'utilisation de cet article de toilette par l'homme blanc. L'Indien vivant essentiellement en plein air n'avait pas besoin de mouchoirs, il était pratiquement immunisé contre le rhume, et comme l'animal n'avait pas l'habitude de cracher. Le blanc, étant essentiellement un homme d'intérieur, souffrait de rhume, bronchite et maladies de la même famille. Il était un tousseur et un cracheur, et l'utilisation constante du tabac aggravait ses maux. Pour lui, le mouchoir était un article de toilette indispensable. On peut aisément comprendre pourquoi l'Indien considérait l'usage du mouchoir comme une habitude répugnante. D'après l'homme blanc, en choisissant de revenir à ses manières et à ses vêtements tribaux, l'Indien revient à la couverture. C'est vrai, mais ce retour à la couverture, s'il ne l'a pas sauvé, a retardé sa destruction finale. S'il avait été aussi soumis en esprit que de corps, il serait mort dans le siècle suivant sa suggestion. Mais l'esprit, inextinguible, l'a sauvé. Son attachement aux usages indiens, à la pensée indienne, à la tradition, l'a préservé et continue à le préserver aujourd'hui. Les manières de l'homme blanc n'étaient pas les siennes, et beaucoup des nouveautés qu'il a essayé d'adopter se sont avérées désastreuses à sa grande honte. Si l'Indien avait pu prévoir la flatterie et la ruse de son oppresseur européen et conserver son honnêteté et sa sincérité primitive, s'il avait fui le whisky et évité la maladie et pu demeurer le parangon de force et de santé qu'il était alors, peut-être serait-il aujourd'hui traité en homme et non relégué dans une réserve. Mais nombre d'Indiens sont parvenus à leur salut individuel en retournant à la couverture. La couverture indienne, ou robe de bison, vêtement américain authentique, portée avec la conscience de sa signification, abritait dans la personne de l'Indien américain un des efforts les plus courageux jamais faits par l'homme sur ce continent pour s'élever au fait de la véritable humanité. Habiller faussement un homme ne peut qu'affliger son esprit et le rendre incongru et ridicule. Je supplie l'Indien américain de conserver son costume tribal. « Tatangamani, un Indien stoné, dans ce passage de son autobiographie, commente l'éducation qu'il a reçue chez les hommes blancs. « Oh oui, je suis allé à l'école des hommes blancs. J'ai appris à lire leurs livres de classe, les journaux et la Bible. Mais j'ai découvert à temps que cela n'était pas suffisant. Les peuples civilisés dépendent beaucoup trop de la page imprimée. Je me tournais vers le livre du grand esprit qui est l'ensemble de sa création. Vous pouvez lire une grande partie de ce livre en étudiant la nature. Vous savez, si vous prenez tous vos livres et les étendez sous le soleil, en laissant pendant quelque temps la pluie, la neige et les insectes accomplir leur œuvre, il n'en restera plus rien. Mais le grand esprit nous a fourni la possibilité, à vous et à moi, d'étudier à l'université de la nature les forêts, les rivières, les montagnes et les animaux dont nous faisons partie. » Né en mars 1890, Sun Chief a été élevé parmi les Hopis en Arizona. Dans sa jeunesse, il suivit les cours de Sherman Institute en Californie, où il acquit une bonne connaissance de l'anglais et s'adapta vite aux manières de l'homme blanc. Pourtant, il retournera plus tard vivre avec son peuple à Oraibi. Entre 1938 et 1941, il écrivit l'histoire de sa vie. L'extrait qui suit est un commentaire sur ses premières expériences. J'ai appris beaucoup de mots anglais et je pourrais réciter en partie les 10 commandements. Je savais comment dormir dans un lit, prier Jésus, peigner mes cheveux, manger avec un couteau et une fourchette et utiliser les toilettes. J'ai aussi appris qu'une personne pense avec sa tête au lieu de son cœur. Chiesa, écrivain célèbre, jette un regard sur le passé. Enfant, je savais donner. J'ai perdu cette grâce en devenant civilisé. Je menais une existence naturelle, alors qu'aujourd'hui je vis de l'artificiel. Le moindre joli caillou avait de la valeur à mes yeux. Chaque arbre était un objet de respect. J'admire aujourd'hui, avec l'homme blanc, un paysage peint, dont la valeur est estimée en dollars. C'est ainsi que l'Indien est reconstitué comme des pierres naturelles qui, réduites en poudre, sont reformées en blocs artificiels pour aller construire les murs de la société moderne. Les premiers Américains tempéraient leur fierté d'une singulière humilité. L'arrogance spirituelle était étrangère à leur nature et à leur enseignement. Ils n'ont jamais prétendu que le pouvoir de la parole articulée était une preuve de supériorité sur la création muette. La parole était pour eux un cadeau empoisonné. Ils croient profondément au silence, signe d'une harmonie parfaite. Le silence est l'équilibre absolu du corps, de l'esprit et de l'âme. L'homme qui préserve l'unité de son être reste calme et inébranlable devant les tourments de l'existence. Pas une feuille ne bouge sur l'arbre, aucune ride à la surface de l'étang qui brille. Telle est, pour le sage illettré, l'attitude idéale pour la conduite de la vie. Et si vous lui demandez « Qu'est-ce que le silence ?» il répondra « C'est le grand mystère. Le silence sacré est sa voix. » Si vous lui demandez « Quels sont les fruits du silence ?» il dira « La maîtrise de soi, le vrai courage, ou la persévérance, la patience, la dignité et le respect. » Le silence est la pierre angulaire du caractère. Shenandoah, I long to see you away, you rolling river. Oh, Shenandoah, I long to see you away. I'm bound away, cross the wild Missouri. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast.
Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots.